Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
L'histoire se passe aux États-Unis. L'homme est anthropologue, il a une cinquantaine d'années, il mène une vie à peu près normale jusqu'au jour où il fait un séjour dans le désert sauvage du Canada. Nous sommes en 2000. Daniel, c'est son prénom, a une révélation. Il découvre la nature, la vie solitaire, la décroissance, voire l'abstinence, tout cela le bouleverse. Il décide brusquement d'abandonner sa vie matérielle et d'en changer. Il jette son passeport et son permis de conduire à la poubelle et change de nom de famille. Il se fait appeler Suelo, ce qui veut dire « sol » en espagnol, pour se rapprocher de la terre. Il laisse ses 30 derniers dollars dans une cabine téléphonique et entreprend alors de vivre totalement sans argent, reclus, le plus loin possible de tout. Il s'installe dans une immense grotte, creusée dans les falaises de l'Utah, à Moab, en plein milieu du désert. Il vit de ce qu'il trouve et de ce qu'on veut bien lui donner. Il n'accepte rien de l'État, aucune aumône, dit-il, pas de sécurité sociale, d'assurance, d'allocation d'aucune sorte. Pas d'argent du tout. Lorsque je vivais avec de l'argent, dit-il, j'étais toujours en manque. L'argent représente le manque, c'est une chose qui nous lie au passé ou à l'avenir, à travers les dettes ou le crédit, mais jamais au présent. La seule concession qu'il fait au monde moderne, c'est le blog qu'il tient depuis une bibliothèque et qui s'intitule précisément « Vivre sans argent ». Il y détaille son mode de vie et répond à toutes les questions des internautes. Il y confesse aussi, avec beaucoup de contrition, les compromissions auxquelles il a dû se livrer, bien malgré lui, au cours des années. Par exemple, il a été hospitalisé une fois et il a dû se débrouiller pour ne pas payer entièrement les 1000 dollars réclamés par l'hôpital. Au début de cette année, son père est mort. L'ermite de l'Utah est alors sorti de sa grotte pour régler la succession et se débarrasser, fissa, de cet héritage encombrant. Aujourd'hui, dans Les Pieds sur Terre, deux autres histoires de réclusion volontaire ou de Robinsonnade, plutôt heureuse, racontée par Inès Leroux et Alice Sternberg.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Alors, je pense que j'ai toujours été sensible, sans doute à l'électricité, mais de manière assez faible, en fait. C'est juste que ça me fatiguait, je ne savais pas forcément ce que c'était. Ou j'entendais, par exemple, les anciennes télés cathodiques. Quand j'étais petite, je jouais à deviner si la télé était allumée ou pas dans les maisons parce que j'entendais un son. Donc c'était pas douloureux, ça faisait juste un « iiii » comme ça, un truc très très fin que personne n'entendait. Donc c'était très drôle pour moi parce que j'avais l'impression d'être un peu magicienne.
Cet été, j'ai passé mes vacances en Ariège, en camping près d'une rivière. J'adore cette région très peu habitée et surtout la petite ville de Massat, isolée au milieu des Pyrénées. J'en ai profité pour rencontrer Marine avec qui je correspondais depuis plusieurs années. J'ai fait beaucoup d'émissions sur les maladies environnementales et elle m'avait envoyé son polar sans mobile, inspiré de sa propre vie et écrit dans une bergerie au-dessus de Massat, justement. Elle vit toujours dans cette bergerie reculée. Pour s'y rendre, il n'y a pas de route. Je dois grimper le long d'un sentier forestier pendant près de 20 minutes.
J'ai eu un portable, j'ai eu du Wi-Fi, la première à avoir du Wi-Fi dans mon entourage, tout le monde trouvait ça. C'est génial, tu peux même travailler sur ta terrasse. Et puis j'ai commencé à télécharger des films en Wi-Fi pendant que je travaillais sur mon ordinateur. Et là, j'ai commencé à devenir débile, à ne plus être capable d'aligner deux mots, plus savoir recopier un texte, enfin, à être vraiment dans un état de confusion et de fatigue très intense. Et j'ai un ami qui m'a dit « Mais tu sais, le Wi-Fi, c'est pas génial, peut-être que c'est ça, tu devrais débrancher pour voir. » Et donc j'ai débranché, et effectivement, tout de suite, ça allait mieux. Donc j'ai câblé, je suis revenue à l'ancien système avec les câbles Ethernet, et puis j'ai oublié un peu le problème, hein, tout allait bien. Et puis quand même, après, mon téléphone portable a commencé à me faire mal à la tête. Donc, pas très grave, j'ai pris une oreillette... Et j'ai continué à l'utiliser, j'ai continué en fait à mener une vie normale, entre guillemets, jusqu'à l'hiver, je crois que c'est 2009-2010, où là il y a eu un basculement. Je suis devenue intolérante à un nombre de fréquences de plus en plus élevé, et c'était exponentiel, ça s'arrêtait pas en fait. Donc je supportais absolument plus rien. Quand j'avais mon téléphone portable à proximité, quand il allait sonner, j'avais des maux de tête avant qu'il ne sonne. Donc ça, c'était très pratique parce que ça a permis que mon entourage me croie. Je pouvais deviner avant que le téléphone ne sonne qu'il allait sonner. Ça veut dire que j'ai des perceptions qui sont pas classiques, on va dire. Quand j'étais à côté d'une box, c'était pareil. Au fur et à mesure, je pouvais même dire quelle était la marque de téléphone portable que les gens utilisaient, sans la voir, parce que c'était pas les mêmes mots de tête. Donc c'était assez facile pour moi de comprendre d'où ça venait. Puisque si j'éloignais ces appareils, les symptômes s'arrêtaient. Je les rapproche, il y a des symptômes, j'éloigne, il n'y a pas de symptômes. J'avais des maux de tête terribles, j'avais des états de confusion mentale. J'étais comme une personne qui a la maladie d'Alzheimer, en fait. C'était très angoissant parce qu'en fait, j'étais même plus capable de comprendre comment je pouvais me sortir de cette situation. Parce que j'étais enfermée chez moi à me dire « ça va pas, ça va pas ». Mais qu'est-ce qui va pas, au fait? J'oubliais au fur et à mesure. Et comment je... Oui, là, j'ai mal à la tête à cause des ondes. Mais pourquoi j'ai mal à la tête à cause des ondes? Ah oui, il faudrait que je parte de chez moi. Faut que je parte de chez moi, mais je vais aller où? Et puis, là, tiens, tout d'un coup, je tiens genre un sac pour préparer mes affaires. Mais pourquoi je tiens un sac? Ça buguait, en fait, dans mon cerveau. J'avais une très bonne amie qui m'a sortie de Marseille, quoi. Mais j'étais pas tirée d'affaire pour autant, parce qu'en fait, autour de Marseille, c'est pas mieux. La campagne... Les antennes sont très puissantes, donc beaucoup plus puissantes qu'en ville. Donc c'était un petit peu difficile pour moi de comprendre qu'il n'y avait plus d'endroit où je pouvais me réfugier. Et je crois que pour tous les électrosensibles, c'est une étape assez difficile d'admettre qu'il n'y a plus d'endroit sur la Terre à l'heure actuelle qui soit préservé. Donc c'est sous terre, si on veut vraiment être protégé, ou sinon il faut faire face. Moi, ça a été ma manière de faire face, ça a été de tout quitter, en fait. J'ai eu la chance de trouver un lieu relativement protégé, à la campagne, dans un endroit oublié par les opérateurs. C'est une petite poche, le téléphone capte à 2 km à droite et à gauche, et puis là, il y a une sorte de cuvette où ça captait pas. Je vivais dans une roulotte qui était dans le jardin de ses amis chez qui j'étais. Et je m'organisais pour faire le moins de courses possible, en fait, pour m'exposer le moins possible aux ondes. Et vraiment, j'avais une zone blanche de 20 mètres carrés autour de la roulotte. Donc je sortais pas beaucoup de mon petit périmètre. Mais je croyais au départ que c'était pour 15 jours, que j'allais rentrer à la maison, que j'allais reprendre mes activités. Puis 15 jours, c'est devenu un mois, puis un mois, c'est devenu 2 mois, puis 3 mois, puis 6 mois. Puis là, j'ai compris que je rentrerais pas, en fait. Que... À ce moment-là, même, je pensais que j'allais en mourir. Donc, au bout d'1 an, à peu près, j'ai mis mon appartement en vente parce que j'ai compris qu'il fallait que je fasse mon deuil d'une vie qui n'était plus pour moi. Donc, la vente de mon appartement a financé ma survie pendant plusieurs années. Un petit chat est apparu sous ma roulotte. Donc j'ai fait savoir autour de moi à des amis un peu partout qu'il y avait un petit chat qu'il fallait donner. Et j'ai des amis en Ariège qui m'ont dit « Bah nous on le veut bien, faut que tu nous l'amènes. » Alors à l'époque j'étais obligée de passer par les toutes petites routes. Surtout pas prendre l'autoroute parce qu'il y a des antennes tous les 7 km maximum. Tandis que sur les départementales c'est moins difficile. Il y a plus tôt une antenne par village. C'est un peu plus tranquille, on va dire. Je portais à l'époque un voile blindé, de tissu blindé, qui sur le visage, sur la tête, plus un chapeau blindé par-dessus, qui me permettait de souffrir moins. Je sentais quand même, mais moins. Donc me voilà partie avec ce petit chat jusqu'à chez ses amis, qui habitent en Basse-Ariège. Et en arrivant chez eux, j'ouvre la portière et le chat s'en va en courant et il rentre directement dans une maison. Et donc je suis le chat. Et là, je vois des gens qui transportaient des cartons et qui avaient l'air de déménager. Et je leur dis « Excusez-moi, vous n'avez pas vu un petit chat ?» Ils me disent « Si, si, il est rentré dans la maison, tu peux aller le chercher. » Donc je rentre dans la maison et là, un sentiment de bien-être terrible. En fait, il n'y avait pas de réseau dans la maison, il n'y avait rien. Et donc j'ai demandé si je pouvais peut-être habiter là. Ils m'ont dit « Oui, oui, la maison est allouée, pas de problème. » Donc c'est comme ça que je suis arrivée en Ariège. Le bail n'était que de 6 mois. Donc j'avais un impératif, je devais trouver un autre endroit. Et j'ai trouvé donc le lieu où je suis actuellement, une ancienne bergerie dans la montagne, assez protégée. Voilà. Il va falloir que j'aille voir mon bébé.
Oui, oui. Ça vous embête si je dis ça pendant qu'on discute?
Ça vient. T'es tranquille, maître. Voilà. Ça va. Donc j'ai un petit bébé qui n'a pas l'air électrosensible. Ça, c'est bien.
Ça va, mon cœur. Tu peux y aller.
Marine a aussi trouvé dans la montagne le père de son nouveau-né, qui était son plus proche voisin. Mais avant cela, elle a vécu 3 années seule dans sa bergerie.
Donc je me suis retrouvée dans cette bergerie isolée dans la montagne toute seule, avec un enneigement très fort l'hiver. Il peut y avoir 1,50 m, voire plus, de neige. Il n'y a pas d'accès routier, j'avais pas le téléphone, j'avais pas d'électricité. Alors, quand je suis arrivée ici, j'ai acheté 4 choses. J'ai acheté des chaussures de marche, j'ai acheté des lunettes de soleil anti-reflet pour la neige, une pelle à neige et une tronçonneuse. Je coupais le bois. Et donc, j'ai fait des bonhommes de neige. J'ai sauté dans la neige. Pour moi, c'était vraiment drôle. Par exemple, quand il y a 1,50 m de neige, pour atteindre le tas de bois, il faut un peu nager sur la neige. Sinon, elle s'affaisse quand vous marchez dessus. Même avec des raquettes, ça s'enfonce jusqu'à la taille dans la poudreuse. J'ai passé vraiment des moments à me dire, à transporter mes bûches dans des conditions de fou, à me dire, mais... quelle drôle de vie. Sous les étoiles, en même temps, un ciel étoilé magnifique, avec voilà la lumière de la petite bougie qui est dans la maison, puis moi dehors avec mon renard qui me guette, qui se demande ce que je fabrique. Et en fait, ça a été les plus beaux moments de ma vie. Ça a été vraiment les plus grandes joies de découvrir dans la solitude. Il a fallu aller puiser vraiment au plus profond de moi. Et j'ai trouvé quelque chose d'universel, je pense. C'est une sorte de sentiment de continuité de la vie, qu'il n'y a pas de séparation entre les êtres, entre les choses. Et donc, on accède à une grande force et une grande joie de vivre. Et j'ai trouvé ça ici. Sans souffrance physique, ici, j'ai vraiment éprouvé déjà la joie d'être dans un corps vivant, sain et en bonne santé. Quand on a beaucoup souffert, en ayant l'impression d'être torturé, le jour où la torture s'arrête, on éprouve un soulagement vraiment intense. Et surtout, j'ai médité beaucoup. J'ai eu la chance de découvrir une technique de méditation qui s'appelle Vipassana et qui consiste à observer les sensations. Donc j'ai passé des très très longs temps ici à méditer. Là où vous êtes assise, à côté du poêle, je me levais souvent à 3-4 heures du matin avec ma petite bougie. Et je remettais du bois dans le poêle et puis je m'asseyais. J'ai écrit des livres, j'ai commencé des études de droit, voilà, dans cette solitude. L'idéal, c'est de devenir avocate. Donc je fais des études à Paris 1, à la Sorbonne, qui a aménagé mes conditions d'examen. J'étais dans une pièce à part, aménagée pour que je puisse passer mes examens. Avec un surveillant que pour moi toute seule, qui n'a pas de portable, avec personne dans les salles à côté, les néons au plafond qui sont éteints, et donc avec une petite lampe que j'apporte, qui fonctionne à pile.
Marine est en 3e année de droit. Elle me raconte son long combat judiciaire, inédit en France, au terme duquel son électrosensibilité a été reconnue comme un handicap. Après 5 années passées loin des brouillards électromagnétiques, avec les soins d'une toxicologue et par la méditation, elle a pu se reconstituer une santé.
Alors, je ne peux pas dire que je suis guérie, parce que certains types de fréquences me font encore des maux de tête. C'est très ponctuel. Mais disons que j'ai 95% des symptômes que j'avais que je n'ai plus. J'ai bien envie de retrouver un peu de civilisation, donc à dose homéopathique, hein. Il faut raison garder. Mais oui, je crois que c'est le moment pour moi de redescendre de la montagne.